Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine, merci d'être avec nous, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous dresserons un bilan de la concertation nationale au Mali. Après 3 jours de concertation, de discussion, une charte organisant la transition a été présentée samedi soir à Bamako. Dans les grandes lignes, elle prévoit une transition de 18 mois et la création de plusieurs organes. En revanche, s'agissant de la personnalité qui sera chargée de diriger le pays durant cette période, eh bien la question n'a pas été tranchée. C'est un comité formé par la junte qui sera chargé de désigner le président. Il s'agira soit d'un civil, soit d'un militaire. Seulement voilà, le mouvement du 5 juin, le M5, le mouvement de contestation, affirme que le document final qui a été présenté samedi à Bamako ne correspond pas au résultat des délibérations. La majorité des participants ont plaidé pour une transition civile, affirme le M5. Du coup, le mouvement dénonce la volonté d'accaparement du pouvoir par la junte. Alors que vous inspire cette polémique? On en parle évidemment ce matin, nous lancerons le débat dans une demi-heure, 33 9 693 693 70 et vous continuez évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission et le compte WhatsApp. J'ai l'ordinateur devant moi, j'ai la page Facebook, je lis vos commentaires au fur et à mesure et j'en citerai évidemment quelques-uns pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Marius, bonjour.
Bonjour Monsieur Juan Gomez, je dis bonjour de passage à Arnaud Pontus.
Très bien, Arnaud Pontus évidemment, qu'on retrouvera demain matin dès 4h temps universel. Arnaud Pontus qui nous réveille tous les jours sur RFI. Marius, vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et vous avez des questions concernant les exactions de l'armée nigérienne.
Oui, c'est cela. La Commission nationale des droits de l'homme du Niger, après une enquête, a révélé que plus de 100 personnes ont été assassinées par des militaires incontrôlés. Alors, je voudrais savoir comment la CNDH a mené cette enquête pour arriver à cette conclusion et quelle a été la réaction des autorités politico-militaires.
C'est vrai que sous couvert de lutte contre le terrorisme, des éléments de l'armée sont accusés effectivement d'avoir commis des exécutions sommaires contre des civils dans la région de Tillabéri à l'ouest du Niger. Marie-Pierre Lefant, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Marius.
Journaliste au service Afrique de RFI. Précisons tout de même avant de répondre à Marius que la Commission nationale des droits de l'homme est un organe public. Il est composé de représentants du gouvernement, du parlement, d'ONG, mais aussi de juristes, de syndicats. Concrètement, comment la CNDH a-t-elle travaillé, a-t-elle pu enquêter sur le terrain?
Alors tout d'abord, c'est justement parce que son mandat le lui permet que la CNDH a enquêté. Elle s'est auto-saisie de ce sujet, de ce dossier. Elle a su très vite ce qui s'était passé parce que les premiers messages ont circulé dans les jours qui ont suivi ces exactions et a donc décidé elle-même d'enquêter. Ensuite, bien sûr, comme dans pareil cas, la commission s'est rendue sur les lieux. Il faut rappeler que ces événements dont on parle se sont produits fin mars et tout début avril, mais la CNDH, elle, n'a pu se déplacer que 2 mois plus tard quasiment. Elle explique que c'est faute de moyens logistiques et financiers parce qu'il faut rappeler d'abord que cette mission a dû se rendre dans une zone d'insécurité et d'attaque récurrente, une zone à la frontière avec le Mali. Les experts ont donc dû travailler sous escorte militaire, il a donc fallu organiser ces escortes et ils ont dû faire aussi des allers-retours quotidiens vers une base arrière plus sûre pour dormir. Et tout ça a eu un coût, évidemment 30 millions de francs CFA, soit environ 45 000 euros. Donc une fois cet argent mobilisé, une fois les escortes mises en place, les experts ont pu effectuer leur mission. Ils en ont effectué plusieurs entre le 20 mai et le 6 juillet. Ils ont évidemment entendu des témoins sur place, des proches des victimes, des rescapés, et ils ont réussi à localiser également 6 fosses communes.
Et au total, 71 corps ont été recensés par la Commission nationale des droits de l'homme.
Oui, et c'est sur cette base, sur ces corps retrouvés, que les experts ont ensuite travaillé. Ils ont tenté évidemment de les identifier dans un premier temps, même si des tests seront faits ultérieurement. Le travail n'est pas terminé. Ils ont tenté de comparer les corps qui ont pu être identifiés avec la liste de 102 personnes établies dès le départ par les populations. Il a fallu aussi vérifier que certaines de ces personnes n'avaient pas été arrêtées ou tuées lors de frappes aériennes qui ont eu lieu la deuxième quinzaine de mars dans la région, ce qui aurait pu expliquer que certaines Fontaine soit portée disparue aux yeux de leurs proches. À noter que la CNDH a aussi envoyé sur le terrain un médecin légiste et des officiers de police judiciaire. Il y a eu aussi des prélèvements d'ADN qui ont été effectués sur les corps retrouvés à des fins d'identification. Donc, vous le voyez, c'est une enquête longue, minutieuse, qui a pris du temps pour recueillir à la fois des témoignages et des preuves matérielles.
Marius nous demandait quelles étaient les réactions de la classe politique, des autorités, du gouvernement, également des autorités militaires. On a entendu ces dernières heures sur l'antenne des RFI le ministre de la Défense. Lui, il dément l'implication de l'armée dans ces exactions.
Oui, Soufou Katembe avait déjà apporté et l'a répété sur nos antennes effectivement aujourd'hui. Il répète son soutien indéfectible à son armée. L'armée ne se reconnaît pas à travers ces massacres, ce sont ses propos. Mais dès le début, avant même d'ailleurs que le rapport soit rendu et que alors que la CNDH enquêtait encore sur le terrain au mois de juin, le ministre des Affaires étrangères avait lui aussi apporté le soutien à l'armée, son soutien à l'armée nigérienne en dénonçant des allées mensongères. Il faut préciser cependant que le président Issoufou a reçu en main propre ce rapport de la CNDH au mois de juillet. Il a félicité les enquêteurs pour leur travail, mais il n'a fait depuis aucun commentaire sur le fond du rapport.
Marius, vous avez une dernière question, il me semble.
Oui, tout à fait. Il voudrait savoir si ces militaires seront jugés.
Ah, des militaires seront-ils jugés? C'est en tout cas ce que réclame la société civile, Marie-Pierre Olfan.
Oui, et alors des militaires, pourquoi on parle de militaires? Il faut juste le rappeler que ce sont eux qui sont clairement pointés du doigt par l'enquête, parce que pour la CNDH, il n'y a aucun doute sur l'implication d'éléments des forces armées. Mais c'est effectivement la justice maintenant qui va être chargée de déterminer quelles sont les responsabilités, si elles sont individuelles ou collectives. Le ministre de la Défense dit avoir renvoyé le rapport au niveau de la juridiction compétente, sans en dire plus. Il assure ne pas savoir où en est aujourd'hui le processus judiciaire. A priori, on sait que dans pareil cas, il s'agit de justice militaire, puisque les personnes mises en cause sont des porteurs d'uniforme. Maintenant, reste à voir si cette justice va passer ou non. Certains, aujourd'hui, en doutent.
Oui, en tout cas, le ministre de la Défense affirme que ce rapport pouvait être de nature à saper le moral des troupes et à discréditer leur action dans leur combat contre les groupes terroristes et les groupes criminels organisés. Si vous souhaitez réagir, justement, à ces accusations, RFI vous donnera la parole. Le vendredi, c'est la libre antenne. Vous commentez l'actualité de votre choix. 33 9 693 693 70. Marius, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, merci. Merci à vous également, merci aux techniciens pour faciliter la liaison.
Bah oui, surtout que voilà, là, votre voix commençait à se robotiser, donc il était temps qu'on vous remercie de nous avoir contactés. Bonne journée à Abidjan, Marie-Pierre Olfan, bonne journée également. 10h18 ici à Paris, 33 9 693 693 70. Mossadou, bonjour.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la RFI.
On est à 2 mois de l'élection présidentielle aux États-Unis et vous avez des questions.
Effectivement Juan, après des révélations troublantes de sa nièce, de son ancien conseiller à la sécurité nationale et surtout de son ancien avocat de faire des révélations troublantes sur le président Donald Trump. Et donc à ce sujet, j'aimerais savoir à quel point ces apparitions pèsent sur le débat télévisé à 2 mois de l'élection présidentielle.
Ah, bonne question. C'est vrai que pas une semaine ne passe sans qu'un livre dresse un portrait dévastateur du président américain. D'ailleurs, demain sortira en librairie un autre livre, hein, le nouveau livre de Bob Woodward, dans lequel ce journaliste très célèbre accuse Donald Trump d'avoir menti aux Américains sur le Covid-19. Jean-Éric Brana, bonjour.
Bonjour Joanne, bonjour Moussadou.
Vous êtes maître de conférence à l'université de Paris 2 à Sas, spécialiste de la politique et de la société américaine. Pas une semaine ne passe sans qu'il y ait un livre contre Donald Trump. Est-ce que ces livres ont des conséquences ou des répercussions sur le débat public aujourd'hui aux États-Unis?
Vous avez bien raison de dire pas une semaine ne passe sans un livre. On se souvient comme depuis le début juin, on a eu le livre de Bolton, le livre de Marie Trump, on a effectivement cette semaine le livre de Woodward, le livre de Michael Cohen qui arrive en fin septembre. Alors, est-ce que ça pèse? Oui et non. Ce qui est très intéressant, c'est que ça dresse en réalité un portrait de cette campagne qui tourne autour de Donald Trump. Et c'est vrai que tous les sujets de fond qui devraient animer cette campagne, que ce soit la santé, période de pandémie, que ce soit la sécurité que Donald Trump met en avant, que ce soit les questions d'immigration qui ont occupé le haut du panier en 2016, mais tout ça est écarté au profit d'une campagne qui est en réalité devenue un référendum pro ou anti-Trump. Et ces livres balisent un petit peu cette campagne. On pourrait rajouter qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de livres également pro-Trump qui sortent en ce moment, notamment écrits par Sean Hannity ou d'autres leaders de la chaîne Fox News qui sont mis également en avant par la presse, alors là plutôt pro-Trump. Et donc c'est autour de ça que se configure cette campagne. Et le résultat, eh bien, c'est que la cote de Trump ne bouge pas. Elle reste toujours la même au gré de...
C'est-à-dire que tous ces livres ne fragilisent pas l'image de Donald Trump.
Non, mais rien ne fragilise l'image de Donald Trump. Il a fabriqué des fans et il fait sa campagne autour de cela. Et en réalité, tous ses livres consolident Donald Trump dans sa façon de faire, dans cette division de l'Amérique, car ça crée une narration pour ceux qui sont déjà convaincus, mais ça crée la narration exactement inverse pour ceux qui soutiennent plutôt Donald Trump et qui trouvent que ça légitime plutôt leur vote, qui est qu'il y a une élite qui veut faire tomber Donald Trump, oui. Et même ça donne du fuel à des groupes conspirationnistes comme Cannon qui prend beaucoup d'importance actuellement et qui dit, vous voyez bien qu'ils sont tous contre lui et qu'ils ne veulent pas qu'il réussisse.
Oui, en même temps, après, il y a des preuves. Jean-Éric Branat, dans le livre qui sort demain, le livre de Bob Woodward, c'est un livre à base d'entretien. C'est-à-dire que le journaliste a enregistré ses discussions avec le président américain et Bob Woodward dit quand même quelque chose d'incroyable. Trump était au courant de la gravité du coronavirus dès le début du mois de février. Il a volontairement minimisé le danger. Voilà ce qu'on peut lire dans les bonnes feuilles déjà disponibles, ce qu'il dit dans les médias américains. Et quand on voit que la pandémie a déjà fait plus de 193 000 morts aux États-Unis, forcément, j'imagine que même au sein de l'électorat de Donald Trump, on se pose des questions tout de même, non ?
Eh bien, en réalité, la charge de la preuve, là aussi, ne vaut qu'avec son contradictoire. Et le contradictoire va vous rajouter que Woodward était au courant de cette affaire-là depuis mars et qu'il ne l'a pas portée à la connaissance du public pendant une longue période dans le but de faire une grosse affaire financière, hein, puisque évidemment son livre est censé lui rapporter beaucoup d'argent. Et en disant cela, vous avez décrédibilisé tout le livre avant même qu'il ne sorte, avant même qu'on sache ce qu'il y a dedans. C'est très compliqué ces choses-là, et c'est vrai que Donald Trump est quand même très fort pour manipuler les foules. C'est un très grand manipulateur, c'est un bonimenteur. Il aurait fait un malheur à la foire de Paris en essayant de vous vendre absolument n'importe quoi. Mais tout cela, effectivement, et c'est la morale qu'on va en tirer, c'est que ça ne joue absolument pas à la fin sur les intentions de vote. Aujourd'hui, figurez-vous qu'il est presque à 45% de cote favorable. C'est un de ses plus hauts scores depuis le départ, alors que dans les intentions de vote, il bouge pas. Il reste à 42-43, donc c'est vraiment très stable.
Ouais. Mossadou, vous avez une dernière question ?
Effectivement, selon Michael Cohen, Donald Trump est prêt à tout pour se faire réélire. Il menace même de manipuler les résultats et aller en guerre. Comment Michael Cohen justifie ses propos ?
Alors oui, propos pour le moins surprenant de Michael Cohen, rappelons que c'est l'ancien avocat personnel de Donald Trump, il met en garde les Américains, il dit Donald Trump fera tout ou n'importe quoi pour gagner l'élection présidentielle, quitte à déclencher une guerre.
Oui, c'est ça. Michael Cohen est quand même très très proche de Donald Trump. Il a été son avocat pendant 12 ans, rappelons-le. Et donc, non seulement il a vu beaucoup de choses, mais il a fait même plus que ça, puisqu'il a mis les mains dans le cambouis. C'est souvent lui qui était chargé de mettre en place les dossiers quelquefois véreux de Donald Trump. Alors, il est allé le raconter à la justice. Il a été condamné pour cela. Il purge en ce moment sa peine, non pas de prison, puisque à cause de la pandémie, il la purge à la maison. Mm-hmm. Mais quand même, il est consigné chez lui. Et donc, sa justification, c'est de dire, j'y étais. Donc, moi, je sais. Et comme c'est moi qui ai trafiqué la plupart des documents, je peux vous raconter comment fonctionne Donald Trump. Il a repris la plupart des accusations, d'ailleurs, qui avaient été portées déjà à la connaissance du public et que, on vient d'avoir cette discussion sur la charge de la preuve que Trump a balayé d'un revers de main en expliquant qu'il n'y était pour rien, notamment l'enquête russe conduite par Mueller, notamment ses accusations de début de campagne sur ce qu'on a appelé les Golden Shower et donc la puissance de Poutine qui aurait des cassettes compromettantes sur Trump. Michael Cohen prétend aujourd'hui que tout ça, en fait, était vrai. Son livre me semble beaucoup plus intéressant que celui de Woodward, puisqu'il va revenir sur beaucoup d'éléments de début de campagne, en les crédibilisant. Alors, on n'a pas les détails puisque le livre ne sort que dans 15 jours, mais en tout cas, ça a l'air très croustillant. Ah, bon. Ça va faire bouger les lignes, là aussi, on peut en douter, mais en tout cas, ça va faire du débat.
Bon, voilà pour les conseils littéraires de Jean-Éric Branat. Merci infiniment d'avoir pris quelques minutes ce matin. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la politique et de la société américaine. Mossadou, bonne journée à Conakry. Merci infiniment de nous avoir appelé. Il nous reste 4 minutes, on va prendre la dernière question de ce matin. Franck est avec nous. Bonjour Franck.
Bonjour Juan Gomez.
Des questions sur la présidentielle dans votre pays, le Bénin, scrutin prévu dans 8 mois.
Exactement, Monsieur Gomez. Plusieurs organisations de la société civile ont demandé au président Patrice Talon la suppression du verrou du parrainage pour l'organisation des prochaines élections présidentielles de 2021. Alors, ma question est celle-ci. Quelle stratégie politique ces OSC pensent adopter afin d'avoir gain de cause?
Ouais, c'est vrai que la société civile, tout du moins plusieurs organisations, craignent que le scrutin ne soit pas inclusif et elles demandent effectivement la suppression du parrainage. Expédie Ologou, bonjour.
Bonjour Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, vous êtes politologue, vous êtes à Cotonou, au Bénin. Il faut d'abord préciser pour tous ceux qui ne connaissent pas la vie politique béninoise, c'est que la loi électorale modifiée en novembre dernier stipule que pour briguer la magistrature suprême, pour être donc candidat à la présidentielle, il faut obtenir le parrainage de 16 élus. Allô, Expédie Ologou, êtes-vous
avec nous ? Bien sûr, bien sûr.
Alors, 16 élus, alors comment expliquer que l'opposition et la société civile dit que le scrutin sera forcément biaisé avec cette nouvelle loi électorale?
Je vous entends très faiblement.
Oui.
Je vous entends très faiblement.
Et nous, on a un problème de décalage entre Paris et Cotonou. On va essayer de régler cela. Expliquez-nous pourquoi la société civile considère que l'opposition risque d'être empêchée de participer au prochain scrutin présidentiel.
Simplement parce que le principe du parrainage qui a été instauré demande qu'il y ait 16 députés au moins. 16 députés ou maires. Or, le Parlement compte 83 députés qui appartiennent à deux partis qui sont proches du chef de l'État. Les élections communales dernières ont montré que sur les 77 communes que compte le Bénin, 71 sièges sont occupés par les deux partis proches du chef de l'État. Donc quand vous faites le calcul, sur les 160 parrains possibles, la majorité présidentielle a 154 parrains. Et les 6 postes de parrains qui restent appartiennent au FCBE, qui est un parti qui est mi-figue, mi-raisin, mi-opposition, mi-majorité pour certains analystes. Donc, dans la pratique et au regard de la loi aujourd'hui, aucun candidat de l'opposition n'a la possibilité de mobiliser 16 parrains pour être candidat à la présidentielle de 2021. C'est tout l'enjeu du plaidoyer que mène la société civile au Bénin.
Et justement, quelle est la marge de la société civile sur place à 8 mois de la présidentielle?
La marge est très faible. L'opposition n'a aucune possibilité pour le moment. La société civile dit qu'elle s'adresse dans son plaidoyer directement au chef de l'État. Mais si on regarde les faits, l'histoire récente, il y a eu des mobilisations nationales, des médiations sous-régionales et internationales pour que, aux législatives de 2019, il y ait une ouverture à l'opposition. Ça n'a pas abouti. Le chef de l'État n'a pas donné gain de cause. Donc, on se demande si cette fois-ci, il va être ouvert. Donc, rien n'est gagné pour la société civile, si on s'en tient à la manière dont fonctionne le chef de l'État jusqu'ici. Et les lois qui ont été prises de façon successive tendent à montrer qu'il y a une sorte d'accaparement total des possibilités de candidature aux élections qui viennent. Donc, les marges sont très réduites, oui. En tout cas en l'état actuel des choses. Il faut en tenir simplement à la seule volonté du chef de l'État, du moins. C'est ce que la société civile elle-même espère, puisque son plaidoyer s'adresse uniquement à Patrice Talon.
Oui, marge de manœuvre très réduite et un calendrier très serré, hein, car rappelons que la CEDEAO interdit de réviser les règles du jeu 6 mois avant tout scrutin, et on est à 8 mois, donc il reste en gros 8 semaines pour essayer de modifier cette loi électorale. Merci beaucoup, Expédie Ologou, bonne journée.